Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le Ravi, votre mensuel régional en collaboration avec Radio Grenouille. Aujourd'hui, on va parler de la future métropole qui verra le jour en 2016 avec Jacques Boultex, astrophysicien, ancien président du Conseil du développement de Marseille-Provence Métropole. Vous venez d'écrire un livre, monsieur, qui s'intitule « Entre peur et raison, la métropole ex-Marseille-Provence » aux éditions de l'Aube. Juste une tradition, juste avant de commencer l'émission, une tradition, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Les plus politisés d'entre vous, ce n'est pas une insulte, savent que des élections sont programmées en décembre prochain. Des régionales, où les sondeurs, là c'est une insulte, annoncent la victoire de Christian Estrosi ou de Marion Maréchal, nous voilà Le Pen. En bref, droite extrême ou extrême droite. Mais qui, même parmi les plus politisés d'entre vous, ce n'est pas une insulte, savent qu'en janvier 2016 sera mis en place la métropole ex-Marseille-Provence, rassemblant 93 communes, près de 2 millions d'habitants, soit 93%, les chiffres sont tellement élevés, je m'y perds, 93% de la population des Bouches-du-Rhône. Ben Jacques Boulestex, par exemple. Il faut dire que vous avez toutes les compétences requises pour repérer dans la nébuleuse de l'actualité les enjeux fondamentaux de ce Big Bang territorial métropolitain. Vous êtes en effet un astrophysicien de renom, spécialiste de l'instrumentation astronomique 3D pour les grands télescopes dans le domaine visible, la cinématique des galaxies et la détection des galaxies primordiales. Ça ne s'invente pas. Sans détecteur à comptage de photons, en effet, comment démêler le vrai du faux? Comment discerner le début du commencement de la fin? Comment interpréter, pour ne prendre qu'un exemple, l'hostilité des maires à cette métropole qui fédère aussi bien la supernova de droite Maryse Joissin, l'astéroïde néo-socialiste Raymond Raimondi ou un Gaby Charroux de la constellation communiste? Mais comment aussi y voir clair dans l'amas globulaire technocratique gouvernemental ou les arrière-pensées des géocroiseurs de la chambre de commerce et d'industrie? Jacques Boulestex, vous avez donc mené une brillante carrière universitaire, sillonné le monde télescope en télescope, développé des techniques novatrices. Jeune retraité du CNRS depuis 3 ans, votre expertise est toujours sollicitée par vos pairs. Mais vous explorez aussi la galaxie politique depuis de nombreuses années. Votre entrée en orbite militante se fait en 68 en tant que responsable de l'UNEF à la Faculté des sciences de Marseille. Venu du Parti communiste, vous rejoignez en 89 Robert Vigouroux, le maire d'hiver gauche de Marseille, sous le mandat duquel vous êtes conseiller municipal délégué à l'enseignement supérieur. En 2008, élu sur les listes socialistes conduites par Guérini, c'est dans l'opposition que vous siégez à nouveau en mairie. Président de 2009 à 2014 du Conseil de développement de la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole, président depuis 2011 de la société PACA Investissement, c'est un fonds régional pour soutenir la création et le développement des entreprises innovantes, le projet métropolitain est au zénith de votre engagement citoyen. Vous publiez maintenant, entre peur et raison, un vibrant plaidoyer pour que la métropole ex-Marseille-Provence ne s'embourbe pas dans une synthèse a minima entre la pléiade de ses opposants. Car dans notre région, les trous noirs de la démocratie locale, on connaît.
Jacques Boulestex, un commentaire sur ce portrait à la sauce Ravi.
Ah ben c'est très beau, c'est très bien. Je veux que, quand même que l'astronomie, ça peut être la base de beaucoup de structuration de pensée. Bravo.
Alors Jacques Boulestex, la métropole ex-Marseille-Provence se mettra en place le 1er janvier 2016, si tout va bien. Aujourd'hui, le territoire est éclaté en 6 intercommunalités, avec de nombreux handicaps. On va en parler, on va les détailler, également des atouts, vous nous en parlerez. En 2012, Jean-Marc Ayrault annonce la création d'une métropole, qui verra le jour donc en 2016. Marseille d'abord, est-ce qu'elle a l'étoffe, est-ce qu'elle a les atouts pour devenir une grande métropole comme les Lyon par exemple ?
Sans conteste, en France, il y a 3 grandes conurbations qui ont une taille européenne, voire mondiale. Enfin, il faut être modeste, puisqu'on a une trentaine de villes qui font maintenant plus de 10 millions d'habitants dans le monde, donc on n'est pas quand même à ce niveau-là. Mais en France, c'est Paris, Lyon et Marseille, ça a toujours été un peu comme ça. Donc, et pourquoi est-ce que ça peut faire... une métropole de taille européenne, c'est parce que d'une part le volume de personnes et de compétences est suffisant, et notamment la complémentarité des compétences, ou un petit peu quand même les compétences dans tous les domaines, universitaires, sociales, économiques, etc., culturelles, mais aussi parce que Marseille, c'est une ville traditionnellement d'échange. Et donc, aujourd'hui, la caractéristique des grandes métropoles mondiales, c'est que c'est des lieux d'échange. D'ailleurs, la plupart de ces grandes métropoles sont situées en bordure des océans ou des mers.
Michel ?
Le mois dernier, à votre place, Michel Peraldi, l'anthropologue, disait, il ne savait pas où vous veniez, que Marseille était une étoile morte. Et en particulier parce que, selon lui, elle est sortie du champ des échanges internationaux maritimes, entre autres.
Sur cet aspect, c'est sans doute vrai. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas dans un système qui est vraiment statique. Il est en très grande évolution. On le voit tous, il y a de nouvelles économies qui sont en train de venir, qui ne sont pas uniquement le numérique, mais c'est des économies circulaires pour avoir moins de déchets, ou des économies du partage, ou des choses comme ça. Ça va se développer dans les métropoles. Et là, tout le monde part au même niveau. Donc c'est un peu à nous d'être suffisamment créatifs pour essayer de s'implanter et de prendre pied vraiment dans toutes ces nouvelles économies. Alors ça, on en a la capacité. Il faut voir, c'est que quand on a une métropole qui est plus petite, c'est forcément des métropoles dont les compétences sont, ce qu'on pourrait dire, en créneau, c'est-à-dire une compétence ou deux. La microélectronique pour Grenoble, l'aéronautique pour Toulouse. C'est monocompétence, on va dire, même si c'est un peu plus compliqué que ça. À Marseille et Aix, ce qui est difficile, c'est qu'il n'apparaît pas forcément des compétences vraiment très fortes, mais c'est aussi parce que, quelque part, on a beaucoup de compétences très, très élargies. Or, toutes ces nouvelles façons de vivre, ces nouvelles technologies, etc., viennent d'un croisement, et des croisements qui viennent d'un grand nombre de compétences. Un exemple seulement, par exemple, Le mariage entre les technologies de l'information et de la communication ou des lasers avec la santé, avec la médecine. Voilà. Donc ça, c'est des choses où une métropole comme la nôtre, au point de vue technologique, a les capacités de se positionner très rapidement dans les tout premiers mondiaux.
En même temps, les échanges avec l'ailleurs, c'est possible, c'est souhaitable. Comment on fait quand on n'arrive pas à échanger entre deux villes, déjà entre Aix-en-Provence, Marseille, quand Arles est ignoré, quand Avignon est dans une zone un petit peu de limbe? Comment on conjugue tous ces territoires?
Alors d'abord, on a des difficultés à échanger institutionnellement. Mais sur le plan des activités et des habitants, c'est des échanges qui sont absolument permanents. C'est bien ça la difficulté de la métropole, c'est qu'il y a un fossé entre ce que vivent les habitants, qui sont finalement des nuisances, qui sont plutôt en augmentation, parce qu'ils arrivent difficilement à se déplacer, parce qu'ils arrivent difficilement à se loger, parce qu'ils ont des problèmes d'accès à la culture ou d'accès à l'éducation. Et d'un autre côté, des institutions qui finalement restent sur des positions, je ne parle pas que des institutions politiques, ils restent sur des positions qui sont des situations comme il était à 50 ans, alors que ça a beaucoup changé. Un exemple qui me semble bon, même s'il y a des difficultés derrière que je connais, c'est l'université. Si on était resté dans la vision universitaire d'il y a 50 ans avec Aix-Marseille, le droit, les sciences à un endroit, etc., etc., bon, les premières victimes en seraient les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça. On a quand même plus de la moitié des étudiants qui vont à la fac. Donc il faut trouver d'autres méthodes. Donc un souci de cohérence. Après, il faut que ça se fasse autour des projets. La fusion ou rassembler des gens sans projet, c'est une lourdeur supplémentaire, bien souvent.
Alors justement, Michel Guéraud le disait en introduction, 93% de la population des Bouches-du-Rhône sera dans cette nouvelle métropole. Forcément, il y a une question qui se pose, c'est le devenir du département. Est-ce que c'est pertinent de garder cette structure? Est-ce qu'il faut la supprimer tout bonnement?
Absolument, oui. Le département, moi je pense que les départements n'ont pas de raison d'être, du moins les départements urbains. Et c'est pas une réflexion personnelle, ces réflexions existent depuis 20 ans. Les départements ruraux, tout le monde sait que c'est un outil essentiel de l'équilibre des territoires et de la solidarité. Sur les départements urbains, c'est plus le cas, c'est un doublonnage. Donc quelque part, que ça s'appelle une métropole départementale ou un département métropolitain, peu importe. Le fond, c'est un peu tout ça, c'est un peu la même chose.
Ça va réellement diminuer les strates administratives, selon vous?
À terme, il n'est pas prévu aujourd'hui la disparition des départements. Donc, mais à terme,
Le président de la République a fait une déclaration un petit peu ambiguë en disant que les départements, au sein d'une grosse métropole, devraient réfléchir à leur avenir.
Oui, mais il a raison là-dessus. Mais ça aurait été même mieux s'il l'avait dit au moment des états généraux de la démocratie locale qui s'était tenue au début de son mandat, où le mouvement était plutôt parti justement pour essayer d'avoir une politique un peu différente sur les départements ruraux et les départements urbains, où il a dit non, les départements c'est très important. Je pense qu'à ce moment-là, il a un peu bloqué les choses. Mais aujourd'hui, bon, maintenant la métropole va exister, donc le département, quelque part, il va se fusionner avec la métropole un jour ou disparaître. Alors il y a une réelle question, c'est qu'il reste les 7% qui sont essentiellement le pays d'Arles et les Alpilles. Bon, moi, je n'ai pas de solution toute faite, et puis je ne suis pas un spécialiste de l'administration politique. Mais je pense que, quelque part, le Rhône, aujourd'hui, n'est plus du tout une limite géographique, comme c'était au moment de la Révolution, quand on a déterminé les territoires. Et quelque part, que même les digues du Rhône, elles sont communes entre les Bouches-du-Rhône et le Gard.
Alors, il y a plein d'arguments qui s'opposent à cette métropole de toute nature, vous les énumérez. Il y en a un parmi d'autres sur la question de l'éloignement, c'est-à-dire qu'il y a une crise, les gens se sentent loin de leurs responsables politiques. Là, on crée une structure, une métastructure. Est-ce que ça ne va pas créer un éloignement supplémentaire vis-à-vis de la représentation?
Alors, je pense qu'il faut se dire qu'à chaque fois qu'on réorganise, surtout à cette échelle, l'administration locale ou d'un pays, il faut aussi avoir un surcroît de réflexion sur ce que doit être la démocratie des gens et notamment la démocratie locale. Or, aujourd'hui, la démocratie locale est extrêmement faible. Ici, les lieux de débat sont extrêmement faibles. Les mécanismes même de démocratie locale sont pratiquement inexistants. Donc, quelque part, si on veut se rapprocher des citoyens, la première chose, c'est de recréer à tous les étages de la démocratie. Voilà, ça, c'est la première de toutes les choses. Sur le reste, évidemment, on peut toujours dire que les communes, moi, je suis pour qu'on garde les communes, je trouve que c'est bien, ça me pose aucun problème. Mais les communes ne sont pas égales. On ne peut pas comparer Saint-Antonin-sur-Bayon avec 130 habitants et Marseille avec 800 000 habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saint-Antonin-sur-Bayon serait plus démocratique que Marseille? Non, je ne le pense pas. Le problème, ce n'est pas la taille des communes. Le problème, c'est la manière dont on organise à l'intérieur la démocratie. Eh bien, pour la métropole, ça sera la même chose. C'est-à-dire, si on n'organise pas de démocratie à l'intérieur de la métropole, ça sera un zinzin de plus qui sera rajouté, et puis les gens ne seront pas satisfaits parce qu'il y aura encore plus d'éloignement. Mais de toute façon, il n'y aurait pas la démocratie, il y aurait un éloignement grandissant avec les politiques de toute façon.
Non, en même temps, dans l'imaginaire des gens, sachant que le département, j'en reste toujours à cette grosse structure, c'est quand même plus de la moitié du financement des aides sociales, dans leur imaginaire, vous enlevez le département, forcément vous les éloignez des difficultés, comment résoudre ces difficultés, l'aide sociale, etc., etc.
Moi, je ne pense pas que le département soit si proche des gens. Il est proche des communes mais pas et des maires, mais pas forcément des gens. Ceux qui bénéficient de l'aide sociale, ils ne vont pas au département. Ils ignorent d'ailleurs quel est leur conseiller général. Général. D'ailleurs, il y a une forte abstention, une abstention terrible au niveau des départementales. Donc ça, je ne le crois pas. Le véritable problème, c'est avec... c'est pas un problème. Le véritable atout, c'est la proximité des communes. Mais là encore, il faut, on ne peut pas se contenter aujourd'hui de la manière dont la démocratie est organisée dans les communes. Alors, je simplifie, grosso modo, il y a ce qui est légal, alors les affichages, des conseils municipaux, etc. Mais on est à l'époque Internet, comme j'explique dans mon livre, il y a quand même 80% des communes qui ne font aucune offre sur Internet de leur activité délibérante. Et puis surtout, la démocratie, c'est pas uniquement un rendez-vous tous les 6 ans électoral. C'est tout un processus, évidemment, d'information, évidemment de participation, d'évaluation des politiques publiques, de contrôle, de possibilité de proposer des projets nouveaux. L'enjeu, c'est pas uniquement que les habitants se sentent dans un espace démocratique. Le véritable enjeu, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer un avenir commun si chacun n'est pas capable d'inscrire ses propres projets dans une vision commune. Donc aujourd'hui, c'est pas ce qui existe.
Alors on l'a dit, en 2012, Jean-Marc Ayrault lance ce projet de grande métropole avec une deadline, 2016, elle rentrera en vigueur. Quels sont les scénarios qui vont se mettre en place là? On va assister à quoi exactement?
Moi, je pense que les choses vont se faire d'une manière très simple, pas forcément satisfaisante, mais d'une manière très simple.
Alors expliquez-nous, pourquoi pas forcément satisfaisante ?
Ben, je veux dire, la première des choses, c'est que les élus qui sont en charge, qui vont être en charge de l'administration de la métropole du 1er janvier 2016 à 2020, puisqu'il y aura de nouvelles élections en 2020, sont des élus qui n'ont pas été élus sur un projet métropolitain. Ils n'en ont pas. Ils étaient sur un projet municipal, parce que les élections, c'était comme ça. Et simplement, on votait pour des élus qui seraient au niveau de la métropole, alors que même la loi n'avait pas été encore votée. Donc, on ne peut pas leur demander, à ces élus-là, d'avoir une vision sur le fonctionnement de la métropole qui soit autre chose qu'une vision technocratique. Voilà. Et d'ailleurs, ils auront eux-mêmes beaucoup de technocratie à faire. Uniformiser des statuts ou des carrières d'employés intercommunaux, puisque tout le monde va se retrouver, du moins, à compétences transférées pour les compétences qui sont transférées, ou bien établir un schéma de cohérence territoriale, qu'on appelle le SCOT, qui est le schéma qui organise les territoires et les plans locaux d'urbanisme, ou bien commencer à établir des règles de convergence fiscale. C'est des aspects relativement technocratiques, mais qu'il faut faire. Et je pense qu'ils vont être bien occupés à voir le faire. Donc le véritable enjeu va être à partir de 2020. Alors, en 2020, y aura-t-il ou pas des programmes discuter avec la population sur le développement de la métropole. Des programmes politiques, donc des programmes qui sont en compétition et éventuellement contradictoires. Y aura-t-il un suffrage direct au niveau de la métropole, qui est la conséquence de ça, quelque part, on vote sur des programmes.
Logiquement, ça devrait se faire en 2020, non, le suffrage direct?
Ben, le principe a été pris, mais la loi n'est pas... Il doit y avoir une loi spécifique qui doit être votée pour ça. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer, mais ça, c'est la clé de tout. Et donc, c'est à ce moment-là seulement que, lorsque les habitants seront consulter politiquement sur la métropole, qui vont pouvoir se l'approprier et y apporter eux-mêmes leur propre vision et leur propre projet.
Vous mentionnez deux scénarios possibles. Un, catastrophique, la métropole embourbée, et l'autre, donc, la métropole de la relance sociale, économique et politique. Dans le scénario catastrophique, vous y allez fort. Hein. Vous parlez de métropole du pire, une métropole croupion, une métropole hybride, fille de l'immobilisme godiniste et du localisme extérieur à Marseille, etc., etc. Il se trouve que, à ce jour, le scénario qui va se réaliser, c'est celui-là et pas un autre. C'est-à-dire que le département est maintenu, les compétences de la métropole sont rognées, les intercos vont être maintenus quasiment en l'état au sein de la métropole. Donc on va rajouter une strate supplémentaire sans volonté politique d'aller au-delà, et même plus, avec des volontés politiques de ne surtout pas aller au-delà.
Oui, et il faut rajouter même qu'on va se trouver dans une métropole qui aura moins de prérogatives que les métropoles de droit commun qui sont dans la loi, et notamment sur les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui ne seront pas au niveau de la métropole. Donc c'est vrai que ça va être très difficile à ce moment-là, d'ici 2020, pour que les choses avancent sur le fond. Elles vont avancer sans doute sur ces aspects, mais qui sont indispensables.
Une question ce mois-ci, c'est les 20 ans. En fait, les 20 ans de Gaudin, les 20 ans de son élection en mairie. Comment ça se fait que...
Non, c'est 50 ans au conseil municipal.
Alors, 20 ans en tant que maire, en tant que maire, hein, effectivement. Là,
1995, oui.
Donc, 20 ans en tant que maire. Comment ça se fait que l'élu de la ville-centre, qui a tout intérêt, a priori, à désenclaver cette ville et à la mettre en dynamique métropolitaine, comment ça se fait qu'il soit aussi...
traîne les pieds, on va dire.
Indifférent, hostile, c'est quoi le qualificatif? Vous parlez d'immobilisme
Je pense que Jean-Claude Gaudin a une vision métropolitaine qui est essentiellement politique et financière. Donc politique, c'est-à-dire la gouvernance, qui est chef, où est le pouvoir, et financière, c'est le discours habituel, c'est celui de dire nous avons les charges de centralité, il faut que les autres contribuent, et donc il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Je pense que c'est une vision extrêmement étriquée de la métropole. La métropole, c'est avant tout une convergence de projets. On n'a pas de projet, des projets de développement économique, projets de développement social, projets de développement territorial, etc., du port, enfin bon, etc., industriel, on peut pas y arriver. Mais aussi, la métropole, c'est pas un système de rééquilibrage financier. Bien sûr que depuis longtemps, Jean-Claude Gaudin aurait dû dire que Les rééquilibrages financiers se fera sur la croissance nouvelle de la métropole. Aujourd'hui, on est tanké. Il manque ici, par rapport à Lyon, 10 milliards d'activités économiques par an. C'est ça qui explique notre chômage. On a 100 000 emplois qui nous manquent.
C'est rattrapable, ça, Gilles Boultex ?
C'est rattrapable sur plusieurs années, à condition d'avoir une politique qui permet ce rattrapage. Donc le rééquilibrage interne entre Aix-Marseille ou les choses comme ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça. Sur le fond, il faut bien comprendre que l'absence de communauté urbaine à Marseille, donc à la fin des années 70, elle a coûté à peu près 150 millions d'euros aujourd'hui par an de manque à gagner sur les crédits d'État qu'on appelle la dotation générale de fonctionnement. C'est d'ailleurs à peu près le débat qu'il y a sur 50-80 millions aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut ça. Moi d'ailleurs je trouve que ce débat, il est intéressant, j'aimerais bien qu'il y ait plus évidemment pour la métropole, mais il n'est pas à hauteur de la discussion financière. Pourquoi ? Parce que ce cumul-là, qui sur 30 ans a abouti à environ à 3,5 milliards d'euros cumulés, qui est quand même une somme énorme, c'est l'équivalent du coût de la LGV Valence-Marseille, qu'on appelait la ligne TGV Sud. C'est énorme. Quand les autres à Lyon ont eu cet argent-là, ils ont développé les transports. Nous, les problèmes comme la ligne Aix-Marseille, c'est des problèmes qui auraient dû être réglés avant. Eh bien, même ces 3,5 milliards qui nous a manqué aujourd'hui, c'est rien par rapport aux 10 milliards d'activités économiques qui nous manquent aujourd'hui par an. Sur la métropole marseillaise, il y a 58 milliards de PIB, il nous en faudrait 70. Et avec ça, on ramènerait le taux de chômage au niveau de la moyenne nationale et sans doute en dessous de la moyenne nationale. Donc il faut une grande politique, et ce n'est pas une politique uniquement économique. Si on n'est pas capable d'avoir les gens formés, on explique, on est quand même dans une zone où le nombre de non-diplômés est nettement supérieur à la moyenne nationale et nettement supérieur à celui de toutes les autres grandes villes françaises. Si on n'est pas capable de faire ça, si on n'est pas capable de donner des transports pour que les gens se déplacent pour aller à leur boulot, etc., ou pour d'autres viennent, si on n'est pas capable d'avoir des logements correct, etc., ben on ne peut pas y arriver. Donc c'est une grande politique qui associe à la fois le développement économique, le développement social et l'éducation, et puis une politique régulière au moins sur une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est pas impossible de rattraper ça. Hein.
Alors la communauté urbaine s'est faite avec 40 ans de retard à peu près, on le paye encore aujourd'hui. La future métropole va avoir au moins 4 ans de retard puisqu'on va stagner jusqu'en 2020, sachant quand même qu'il y a 2017 peut-être un changement de majorité et que peut-être on va revenir sur beaucoup de choses. C'est une fatalité sur ce territoire-là ?
Moi je veux pas comme ça, je pense qu'il y a des points qui sont très positifs. D'abord, si la métropole s'est faite, c'est un peu parce que la société civile s'est un peu bougée. Et la société civile, c'est évidemment, on la connaît, c'est quatre composantes essentielles dans cette vie. Il y a évidemment, je mets pas d'ordre, mais il y a l'économie, puisqu'ils sont montés très fortement les milieux économiques pour la métropole, et c'est une bonne chose. Il y a l'université, faut quand même pas oublier que l'université elle-même a fait sa propre métropole. Et ça a joué. Les milieux culturels qui ont été boostés par Marseille 2013, puisque ça s'est passé... Et puis, évidemment, tout le cortège, je dirais, de tous les aménageurs, architectes qui réfléchissent sur l'aménagement des territoires et qui proposent depuis 30 ans qu'on change un petit peu de braquet. Donc, ça s'est convergé. Comme la métropole a lieu, aujourd'hui, c'est dans ces milieux-là qu'il y a les projets les plus intéressants. Voilà. Et je crois que ça leur a donné confiance. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui vont attendre que le monde politique se soit structuré. On l'a vu pour l'université. Si on avait dû attendre que la métropole existe, les universitaires n'auraient jamais fait l'université unique. Donc ils ont des projets, et je pense que c'est ça le côté positif, et qui rend inéluctable cette structuration politique derrière, parce qu'après tout, la politique c'est au service des habitants et de ceux qui créent, et c'est pas l'inverse.
Michel ? Un mot sur les freins dans le monde politique, et qui pose aussi des enjeux, hein, qui questionnent la métropole qui se construit. Alors, critique de droite, pour faire simple, des élus de droite, cette métropole, le risque, c'est qu'elle mutualise la misère. Alors, c'est l'archétype, c'est Joissin qui dit « je ne veux pas des pauvres Marseillais ». Et Marseille va tirer tout ce territoire en arrière, avec sa misère, avec ses dettes, avec sa population suspecte. Les quartiers nord. C'était dit comme ça, hein, quasiment. Ouais.
Alors, je vais donner deux réponses. La première des choses, c'est que si c'est pour avoir une métropole qui reste au niveau de la stagnation sociale et économique actuelle, c'était pas la peine de la faire. Bon, ça c'est clair. C'est fait justement pour pouvoir dépasser ça. Donc on peut pas rentrer dans ce scénario comme quoi on va se retrouver dans les mêmes systèmes de misère. Sinon, c'est un échec, et c'est un échec dramatique, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'autres solutions que d'essayer de...
C'est un scénario qui a beaucoup d'écho, quand même.
Une cohérence. Voilà. Maintenant, sur le reste, bon, il faut quand même voir que tout ce système-là, cette absence de métropole depuis 30 ans, a amené de la concurrence entre territoires. Voilà. Et ces concurrences entre territoires, on se chipe les entreprises. Il y a une étude qui a été faite, qui est très intéressante par l'INSEE, très intéressante, qui montre que la localisation des entreprises, ici 80% des entreprises qui se créent sur le territoire viennent d'une autre partie du territoire. C'est unique en France. Donc c'est compétition, on attire sur la pépinière de Méreuil des entreprises qui sont à Château-Gombert, on attire sur les milles des entreprises qui se trouvent à Aubagne, on attire sur... Bon, etc., dans tous les sens. Voilà. Ça, c'est une politique qui est absolument dramatique. Et donc, cette politique-là, qui a été une politique de concurrence des territoires, s'est faite au détriment des activités et des habitants. Donc, la première des choses, c'est d'empêcher ça. Alors, ce que vous posez comme problème, c'est celui de l'habitat et de la répartition, en fait, de la richesse. Il ne faut pas oublier que les quartiers qui se retrouvent au cœur de la métropole aujourd'hui, c'est les quartiers aujourd'hui les plus pauvres de Marseille. Ce n'est pas les plus pauvres uniquement de la métropole. Il y a des quartiers pauvres à Aix, à Martigues et à bien d'autres endroits, à Aubagne. Mais c'est... Donc, si on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir une politique... pour ces quartiers, on pourra en discuter tout à l'heure ce que peut être une politique pour les quartiers nord, eh bien la métropole va se retrouver avec une verrue en son centre qui va nuire à tout le monde. Et c'est pas le savoir si on veut faire du logement social à Allo ou ailleurs qui va résoudre le problème.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi avec nous Jacques Bouletex, on parle de la future grande métropole. Alors, second scénario, celui qui est beaucoup plus optimiste, celui où on est en rupture avec l'immobilisme, où les choses changent. Et vous avez dit tout à l'heure, avant l'interruption, ça permettrait d'avoir une politique pour les quartiers nord. De quelle manière ça améliorerait la situation pour ce que vous avez qualifié de verrue?
Alors, les quartiers nord, c'est intéressant, ces quartiers paupérisés. Parce que je pense que là, il peut y avoir une grande créativité métropolitaine. D'ailleurs, on y sera obligé. Il ne faut pas oublier, quand on regarde, par exemple, en région parisienne, le 93, il y a eu des actions sur le 93 qui utilisent la créativité numérique extraordinaire qu'il y a dans un certain nombre de cités, des choses comme ça. Le rapport qui avait été fait par Mohamed Mechmash sur la politique de la ville à la demande de François Lamy est très précis là-dessus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la politique de la ville... Parce qu'on a mis quand même beaucoup d'argent, il ne faut quand même pas oublier que sur Marseille, sur l'ensemble de toute la rénovation urbaine, c'est 1 milliard d'euros. C'est-à-dire, c'est 6 fois plus que ce qu'a mis l'État sur Euroméditerranée. Donc, on a mis énormément d'argent. Et sur le fond, ça change quoi? C'est parce que, quelque part, la politique de la ville, c'est mieux de l'avoir fait, parce que sinon, ça serait pire. Mais quelque part, la politique de la ville n'a pas changé fondamentalement la situation. C'est pareil que les zones franches urbaines. Les zones franches urbaines, c'est mieux de les avoir, ça a permis des catastrophes. Mais sur le fond, quand on regarde les rapports annuels de l'Observatoire national des zones franches, on s'aperçoit que ça ne change pas fondamentalement le rapport entre le chômage à l'intérieur de la zone et ce qu'il y a à l'extérieur, et les qualifications à l'intérieur de la zone et ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, il faut arriver à faire autrement. Et ce que disait notamment Mechmash, c'est que il faut arrêter de penser que la politique de la ville, ça peut être fait simplement entre des services et des élus. Il faut quelque part qu'il y ait une appropriation des habitants eux-mêmes, mais pas uniquement des habitants qui vivent dans ces quartiers, mais d'autres habitants. Donc c'est un problème de participation citoyenne, de participation à tous les niveaux. Et pour faire ça, eh bien, il faut avoir des outils. Alors il faut avoir des outils, d'abord des outils de rénovation urbaine. Il n'y a pas de raison que quand on casse une cité, ce soit pour reconstruire des logements du même type au même endroit. Je veux dire, on est dans des systèmes...
Ça se fait de moins en moins quand même, quand on
globalise, oui, mais il faut créer des activités.
Mais pourquoi une métropole réussirait mieux qu'une agglo?
Non, j'explique comment est-ce qu'on peut, on peut sortir sur cet aspect-là.
Pourquoi elle est mieux outillée pour vous?
Non, moi je ne pense pas que la solution sur les quartiers en difficulté vient de la métropole. Je pense qu'elle vient d'abord d'avoir une politique spécifique sur ces quartiers. Moi, personnellement, je suis même partisan qu'on en fasse une commune, à ma part. C'est-à-dire, je pense que si on faisait une commune des quartiers nord, ça irait beaucoup mieux, ça permettrait une prise en charge beaucoup plus importante.
Et si on donnait plus d'autonomie aux mairies, bien sûr. On enlève la loi PLM
Bien sûr.
Michel ?
Une question, oui. Il y a la critique de gauche, on parlait tout à l'heure de la critique de droite, les craintes. Alors là, c'est vos anciens amis de l'UNEF, ça date, qui craignent une mise en concurrence totale dans une logique métropolitaine, parce que prédominée par une logique de marché qui est celle de certains partisans de ce projet. Je pense à l'UPE 13, par exemple. Et alors, là, vous dites non, en fait, la métropole, la grande métropole, n'est pas forcément un outil de mise en concurrence des territoires, au contraire. C'est ça que vous répondez à ces arguments, à ces craintes?
Ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. Sur le territoire métropolitain, la concurrence, elle existe déjà. Et elle est dramatique. C'est la concurrence pour attirer des activités, c'est la concurrence pour refaire ou ne pas faire des logements sociaux, on le voit avec les villes à côté. Surtout, je veux pas de barre de HLM, entre parenthèses, je veux pas d'arabe non plus, etc. etc. Donc, cette concurrence, et puis la concurrence, moi je suis plus beau, je suis le cœur de la Provence, moi je suis le cœur de l'océan ou des Calanques, bon, etc. C'est absolument dramatique, c'est pas vrai. Évidemment, c'est tout un tout, parce que les habitants vivent différemment, eux. Ils sont à la fois, je dirais pas aixois et marseillais, mais ils sont facilement au Bagnet, Vitrolet, etc., selon où on habite et selon où on travaille. Par contre, ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, sur le développement des métropoles, qu'il ne faut pas oublier, les grandes métropoles mondiales, aujourd'hui, créent 80% des richesses. Donc, il y a effectivement une concurrence entre les métropoles mondiales. C'est-à-dire que les containers qui ne vont pas à Marseille, ils vont à Rotterdam et ils arrosent Lyon. Et c'est un manque à gagner considérable, non seulement pour ceux qui sont des patrons portuaires, mais pour tous ceux qui sont employés dans le système portuaire. Il y a un manque à gagner formidable, puisqu'il nous manque beaucoup d'emplois. Donc ça, c'est pas possible d'avoir un discours qui est un discours simpliste, qui considère qu'il faut pas qu'il y ait concurrence. Bon, pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien que tout le monde soit bisounours et que sur la Terre, il n'y ait pas de concurrence. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Y compris le bassin méditerranéen est en concurrence. Et je pense même qu'on va être obligé de revoir cet ensemble de problèmes de concurrence. C'est-à-dire que si la métropole marseillaise est elle-même en concurrence avec Gênes et Barcelone, on va recréer le même problème. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui se trouve en Amérique du Sud, São Paulo par exemple, ou en Chine, et qui se développe. Il faut quand même voir qu'on a maintenant des systèmes d'entreprise. En Europe, on n'a pas ça. Il y a des entreprises qui se créent, et deux ans après, ils ont 300 employés, hein, notamment dans le développement numérique ou de la technologie. Ils cherchent un réseau mondial aujourd'hui. Ils disent qu'il faut qu'on soit présent en Amérique du Nord, il faut qu'on soit présent en Europe. Déjà, c'est difficile de faire comprendre qu'il faudrait y avoir deux points d'entrée en Europe. Un en Europe du Nord et un en Europe du Sud. Mais en plus, si on n'est pas capable d'avoir quelque part une répartition, une synergie avec ces grandes villes méditerranéennes, on pourra toujours dire c'est l'ouverture sur l'Afrique qui demain fera un quart de la population mondiale, on n'y arrivera pas. Et c'est la même façon, on ne peut pas développer aujourd'hui les hélicoptères sans avoir au moins un support, un accord, une stratégie commune avec Toulouse, ou développer ici la santé en ayant aussi des complémentarités et une stratégie commune avec Lyon. Marseille ne pourra pas se développer dans le monde si elle n'a pas une stratégie avec ces villes-là. L'important, ce n'est pas d'aller en TGV à Londres pour dire on a ouvert une ligne de TGV. Je pense que les responsables politiques d'urgence devraient aller à Barcelone notamment et à Milan ou dans des villes italiennes, de façon à commencer à préparer, je dirais, cette offre mondial en disant, voilà, ben, on est bon, là, on a ceci, et on marche tous d'un même pas. Donc on a le même problème. On est en concurrence, à chaque fois on est en concurrence dans des sphères qui sont au-dessus, ce qui oblige les sphères qui sont en dessous à avoir une meilleure cohérence. Sinon, bah, ça se traduit par une perte de richesse et une perte de pouvoir d'achat et de qualité de vie pour les habitants d'ici.
Alors, on a bien compris qu'aujourd'hui, le débat est axé sur la gouvernance institutionnelle plus que sur les projets. Justement, comment on fait émerger ces projets? Qui on met autour de la table? Comment on fait un énorme brainstorming où il y a des projets qui sont évidents, on copie ce qui s'est déjà passé à Lyon, ou on trouve une spécificité locale?
Alors, ce que je voudrais d'ailleurs, Borg, c'est qu'il y a beaucoup de projets ici. Hein. Mais tous les projets qui naissent ici ne se font pas ici. Donc ça, il faut quand même y réfléchir. Et lorsque... Alors, je sais que ça change, je ne veux pas être trop caricatural, mais souvent, lorsqu'on demande à ces gens, ces personnes qui ont été faire des projets en dehors, pourquoi ils ne l'ont pas fait, il y a essentiellement la raison qu'il leur a semblé à un certain moment que c'était plus difficile ici à faire qu'ailleurs.
Un plafond de verre ?
Ben, il y a des problèmes d'interlocuteurs. De la gouvernance, il ne faut pas le masquer, mais il y a aussi des outils qui sont tout à fait insuffisants en matière, par exemple, d'accueil d'entreprises, d'accueil d'activités, même universitaires ou des choses comme ça. Ce n'est pas uniquement du foncier. Déjà, le foncier, tout le monde a grappillé le foncier. Il n'y a pas beaucoup de foncier ici, ce qui est un drame hein, quand même pour une métropole qui a 55% de son espace qui n'est pas construit. Je ne dis pas qu'il faut construire sur les espaces naturels, mais enfin, quelque part, on aurait pu avoir une politique foncière plus forte. Mais après, il y a tout ce qui est transport, habitat, etc., qui n'a pas suivi. Alors, toutes ces politiques-là, il faut bien voir que c'est la conséquence de la morcellisation qu'il y a eu au niveau des différentes intercommunalités. Pourquoi ? Parce que les intercommunalités, un peu tardivement d'ailleurs par rapport aux autres françaises, ont fait des plans, la planification. Les SCOT sont récents sur un certain nombre d'intercommunalités, mais ils existent. Mais comme ils sont à une échelle qui n'est pas pertinente au point de vue social et économique, en fait, ils sont revenus à figer plus ou moins les choses. Pourquoi ? Parce que sous la pression de la population, il faut éviter maintenant l'étalement horizontal, il faut grignoter 2-3% de zones agricoles par an, etc. On a fait ça comme ça. Ce qui fait que je pense qu'un des grands enjeux de la métropole, c'est moi ce que j'appelle ce remembrement. Ce remembrement, ce n'est pas uniquement un remembrement des surfaces industrielles, agricoles ou urbaines. On prend par exemple un exemple qui est, je disais tout à l'heure, 55% de zones naturelles, d'espaces naturels dans la métropole. Or pourtant, la biodiversité n'a jamais été autant en danger. Les bêtes ne peuvent plus passer de l'Étoile à la Sainte-Victoire, à la Nerthe, etc. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les zones naturelles permettent cette biodiversité. Deux exemples. Bon, faut arrêter. Peut-être qu'on peut avoir une politique plus intelligente que de bouffer les terres arables en mettant des grands supermarchés. Voilà, etc. On peut peut-être aussi réfléchir. On a quand même pas mal de friches industrielles. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait des industries pour faire de... L'important, c'est d'avoir des zones pour les activités industrielles. Mais si on veut utiliser autre chose, il faut les utiliser. Donc, c'est un problème d'équilibre des territoires. Et tant qu'il n'y a pas une charte politique sur l'équilibre des territoires, en disant, bon, attendez, on est bien d'accord qu'on ne bouffe pas nos zones industrielles, qu'on regagne des zones agricoles, etc. Mais sur le fond, on peut passer de l'un à l'autre, un peu sur le principe, je bâtis une maison, je coupe deux arbres, mais je vois en replanter deux à côté, ou quatre. Voilà, tant qu'on n'aura pas ça, on aura cette difficulté.
Michel, précisément, l'État a reculé dans les négociations pour la création de la métropole début 2016. Il a reculé sur la question du droit du sol en
PLU. Hein.
Voilà, puisque finalement, ce sont les anciennes interco qui vont conserver, et derrière eux, les mairies, conserver ce droit. Donc là,
Moi, je n'étais évidemment pas favorable. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le droit du sol, c'est les sols, c'est-à-dire les permis de construire, hein, ça revient un peu à ça. C'est une compétence qui a été récemment déléguée aux maires. C'est les lois de fer, de décentralisation, qui ont donné ça. Mais quelque part... ça a été l'objet de dérives. Les permis de construire, il y a quand même suffisamment d'histoires dans cette région ici, y compris de coûts d'ailleurs, hein, du foncier même pour les services publics, qui font qu'il y a plus qu'ailleurs, il y a des contestations, et sans doute plus qu'ailleurs, ça se termine aussi au tribunal. Donc ça, ça pose quand même problème. Mmh. Et ça, c'est, quand on parlait tout à l'heure de la démocratie avec les gens, c'est là où on a besoin d'une plus grande démocratie.
Mes questions, malgré tout, quand on voit par exemple ce qui se passe sur Euromed, l'État aménageur en termes de politique foncière, c'est pas non plus le, c'est pas non plus la panacée. Quand on pense à l'État aménageur, Fosses-sur-Mer, et enfin, est-ce que c'est vraiment une garantie? Enfin, on revient à cette question de est-ce que c'est en créant une technostructure, est-ce que la métropole peut être autre chose que ça? Les gens ont peur. Ils ont l'impression que le maire est toujours quand même. Non, on peut lui demander des comptes, on peut lui taper sur les doigts.
Tant qu'il n'y a pas une vision de l'utilisation des espaces à une certaine échelle, qui à mon avis ne peut être que métropolitaine pour nous, parce que 60% des gens ne travaillent pas dans la commune où ils habitent, donc on est quand même sur un espace qui est complexe. Tant qu'on n'a pas cette vision-là, ça veut dire qu'on n'a pas de vision du tout, et que donc on fait du coup par coup. Et le coup par coup, ça amène le clientélisme. Et il faut même voir que derrière les permis de construire, c'est ça qui est en cause. Derrière tous les procès qu'il peut y avoir ou les annulations de...
Clientélisme, normalement, si on supprime le département, on supprime l'aide aux communes qui est un petit peu étrange parce qu'elle n'a pas de règles fixes. Donc logiquement...
C'est une partie du clientélisme qui est supprimée.
Donc logiquement, il y a...
Mais les permis de construire font partie aussi du système clientéliste. La solution, elle est à deux niveaux. Elle est à une planification, je ne suis pas un gosse plan, mais on va dire une charte en disant on va arrêter, voilà les grands axes de planification. Et d'autre part, elle est à un contrôle citoyen sur l'application des choses programmatives qui ont été décidées.
Alors les citoyens, justement, parlons-en. Les maires sont contre, les politiques ne sont pas ravis de la création de cette future métropole. Certains organisent des référendums qui n'ont pas valeur, mais enfin, à titre informatif, ils sont intéressants. Et à chaque fois qu'il y a un référendum, les gens, les citoyens, votent contre ces métropoles, cette métropole.
Oui, mais ben, je sais pas
on si... On ne peut pas la faire sans les gens.
Si je ne m'étais pas intéressé à la métropole, je ne sais pas ce que je répondrais. Si on me dit, attendez, vous habitez à tel endroit, est-ce que vous voulez être fondu avec les autres, que ce soit d'autres qui discutent, qui décident à votre place, que vous soyez un quartier paupérisé de Marseille. Bon, quand on pose les problèmes comme ça, la réponse me semble évidente. D'ailleurs, pour ça, c'est la limite d'ailleurs, des référendums, y compris nationaux. Tout dépend de la question qui est posée. Voilà. Mais par contre, ça pose le problème de la démocratie. Penser que... Alors c'est rigolo, parce que ceux qui veulent le référendum, c'est ceux qui s'opposent au suffrage direct pour la métropole. Mais penser que la démocratie se résume à un système de vote, c'est aujourd'hui totalement dépassé. Et ça va exploser en vol, ce système-là. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est un des pays qui, dû justement au cumul des mandats, à l'âge des responsables politiques, je cite dans mon livre « L'âge des maires », ici, et leur longévité fait en sorte qu'on n'a pas mis en place les mécanismes de démocratie participative innovants. On a mis des systèmes de démocratie participative consultatifs. Alors, c'est le système où on dit, bon, il faut que les élus soient quand même un peu en phase avec la population. Donc, on va créer des comités. Alors, des comités, il y en a pour tout. Il y en a pour, on l'a vu, pour un barrage. Mais chez nous, ça va être pour les jeunes, pour les handicapés, pour un comité de quartier, des trucs comme ça. Mon ami Philippe Audic, qui est le président du Conseil de développement de Nantes, appelait ça les dangers du millefeuille participatif. On fait des trucs à tous les niveaux. Ça abaisse la démocratie participative. Parce que quand on va dans un comité pour les menus de la cantine ou pour le CIQ, pour le trou du trottoir, on va défendre son intérêt personnel. C'est bien, il faut le faire, ça, il ne faut pas l'enlever. Mais par contre, la somme des intérêts personnels ne fait pas un intérêt général. Et donc, il y a de nouvelles formes de participation, ce que j'appelle la démocratie locale et participative d'usage, qui est celle, comment est-ce qu'on veut vivre dans notre ville, dans notre métropole, dans notre espace, dans les 10 ou 15 ou 20 ans? Est-ce qu'on veut se déplacer comme on fait comme des fous en ce moment? Est-ce qu'on ne veut pas avoir des services publics qui soient un peu plus intelligents? Ou quand on ferme dans la poste dans un village, on n'a pas le percepteur dans l'autre, etc. Des tas de choses de cohérence. Ça amène une réflexion globale, une réflexion citoyenne où on pense collectif, c'est-à-dire c'est l'intelligence partagée, l'intelligence collective. Et si on limite la démocratie participative à des problèmes d'intérêt personnel, on ne fait pas ça. Et c'est cette deuxième partie qui manque dans notre métropole et en France d'une manière générale.
Michel,
dans votre livre, dans votre conclusion, vous dites que le premier frein de la métropole, c'est les invisibles. Les invisibles, vous parlez entre autres de l'abstention. Oui. De cette capacité justement à aller chercher sur ce projet-là les gens qui s'abstiennent. Abstention de protestation marginale, surtout une abstention massive. Mais alors, un peu une pareille, est-ce que c'est possible de mobiliser les foules, enfin les foules en tout cas du monde, autour de ce projet-là? On y arrive avec les élites finalement, vous décriviez la société civile par le haut, mais par le bas, comment on peut mettre en mouvement, surtout quand toute l'infrastructure politique est contre ce projet-là, comment on met en mouvement les gens, ces invisibles? Est-ce que c'est pas une bataille perdue d'avance, hein?
Bon, de toute façon, les politiques, ils s'en foutent complètement. Je pense c'est que on pense toujours que l'abstention, c'est une abstention de protestation. Allez, il y en a.
Le vote bras d'honneur existe.
Bien, absolument. Mais la première source de l'abstention, c'est la marginalisation sociale. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'est plus en relation au travail, on n'a pas de travail avec les autres, qu'on ne peut plus discuter, qu'on ne connaît pas ses voisins, etc. On est dans un système où l'intérêt d'avoir une démarche collective, parce que voter, c'est une démarche collective, est extrêmement faible. Donc, si on veut lutter contre l'abstention, il faut permettre aux gens d'avoir des projets et qu'ils puissent se réaliser. Et il faut qu'ils s'inscrivent dans un projet beaucoup plus collectif. Donc, l'approche, en fin de compte, de cette dépolitisation, c'est d'aller... essayer de restructurer. La première chose, c'est la lutte pour avoir un emploi, évidemment. Mais ce n'est pas la seule chose. Il va y avoir des femmes dans des familles monoparentales avec 5 enfants qui travaillent et qui ont le même aspect de marginalisation parce qu'elles ne peuvent pas rencontrer leurs voisins.
Mmh. Alors, Michel l'évoquait tout à l'heure, l'offre politique ici, dans la région, dans cette ville, dans le département, se fait quasiment à une vitesse géologique. C'est des mandats qui sont très très longs, qui sont multiples. On a parlé tout à l'heure de Jean-Claude Gaudin qui fêtait ses 50 ans au conseil municipal et ses 20 ans à la tête de la mairie. Est-ce que la métropole, c'est la solution pour apporter du sang neuf?
Non, je pense pas. Est-ce que la solution, c'est le non-cumul des mandats? Voilà. Et puis d'essayer de faire monter donc de nouvelles générations avec de nouveaux projets. Voilà, on est dans un pays qui est absolument incroyable. Quand on regarde au Parlement français l'âge, la durée de mandat, on a des gens qui arrivent à des fonctions au niveau du président de la République ou au niveau du maire de Marseille après avoir suivi 2-3 échecs avant. On voit en Angleterre, il y a le truc, quelqu'un perd, il s'en va, puis voilà.
Vous connaissez bien la donne politique locale. Alors, il y a une échéance, on en a parlé au tout début, une des régionales. On ne sent pas le débat métropolitain très en pointe. Alors, c'est vrai que la campagne démarre tout juste. On évoque donc, il y a des candidats. Il y a Castaner, Estrosi, Marion Maréchal-Le Pen, peut-être d'autres listes à gauche, probablement. Les Verts sont déclarés. Sophie Camard, a priori, est partante. Est-ce que le débat métropolitain pourrait être porté dans ce moment-là? Alors, il y a une métropole à Nice,
ça serait souhaitable, mais enfin, je veux dire, les régionales, on est dans la prolongation de tendance quand même.
Est-ce qui s'est fait à Nice, Estrosi, un des prétendants, est-ce que c'est un modèle à dupliquer pour Marseille et sa métropole, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut surtout pas faire comme à Nice?
Non, je pense qu'il faut... Il y a deux questions, une qui peut être sur la métropole, l'autre qui est sur l'offre politique dont vous parliez tout à l'heure. L'offre politique n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Et elle alimente d'ailleurs l'abstention. Ça, c'est clair. Donc, on est sur les prolongations de tendance.
C'est vraiment lié, ça, parce que c'est important. Est-ce que c'est vraiment l'offre politique qui fait que les gens ne vont pas voter?
Une partie. Non, après, il y a aussi le fait que s'ils estiment que voter pour l'un ou pour l'autre arrive même politique, évidemment, ça favorise aussi l'abstention. Mais quelque part, ne pas retrouver quelque part des gens à qui on dit « Ah, c'est lui, je vais voter pour lui. » Dire « Ah, j'ai trois listes, il y en a une, il y a deux qui ont des casseroles, l'autre, je peux pas, il a un problème, etc. » Bon, ça, il y a quand même... faut quand même voir qu'on est quand même dans une zone ici où on a des élites politiques qui ne sont pas dans la norme nationale, quoi. Hein, voilà. Donc, ça alimente forcément ça. Après, il y a le problème au niveau de la métropole. Forcément, on retrouve les mêmes mécanismes. On va retrouver les mêmes mécanismes. Simplement, je pense qu'à partir de 2020, ce qui va se passer en 2020, il ne faut pas y avoir qu'il y a quand même 12 métropoles déjà qui ont été créées en 2015. Voilà, plus Lyon. Donc en 2020, l'INSEE ou la DATAR va commencer déjà à donner des chiffres, parce que ça marche. Quand on regarde Montpellier, Toulouse ou Bordeaux, il y a un certain dynamisme sur les métropoles. Donc on risque, nous, de s'être beaucoup plus embourbés et de s'apercevoir en 2020, en regardant ça, que, bon, on n'est pas très bon, comme toujours. Voilà. Donc, peut-être que ça peut susciter quand même aussi de nouvelles vocations politiques. Je ne sais pas si c'est par les partis. Des gens qui disent, bon, finalement, c'est quand même un territoire, il y a de l'argent, on peut faire un certain nombre de choses, on peut développer des projets. Et donc, on va essayer de développer des projets politiques. C'est la chance.
Un mot quand même sur cette échéance des régionales. Ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer, mais vous êtes quand même président de la société PACA Investissement, qui est un fonds régional lié à
la région. Mais à la région. Indépendant de la région, quand même.
Et peut-être donc, que vous avez un regard sur le bilan du sortant qui ne se représente pas. Et est-ce que cette région à l'extrême droite ou conduite par M. Estrosi, vous irez et pour revenir à la question métropolitaine, est-ce que ce qui s'est fait à Nice est un modèle ou un repoussoir ?
Est-ce que ce serait un accélérateur au niveau de mentalité ?
Bon, vous me posez des questions très précises, mais il y a un cadre qui mérite aussi d'être précisé, c'est que, évidemment, la région se trouve en première ligne de comprendre comment elle peut s'articuler avec les métropoles. Il y en a deux, mais de fait, il y en a presque une troisième qui est au niveau de Toulon. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe en France. Ces trois villes sont parmi les 10 plus grandes agglomérations françaises. C'est-à-dire que sur les 22 régions françaises, il n'y en a pas beaucoup qui ont comme ça plusieurs capitales. Donc, il y aurait sans doute eu quelque chose à inventer sur ces réseaux de villes dans la région. Pendant longtemps, le fait métropolitain a été un peu masqué. Moi, je suis très content de voir, puisque je crois que ça passe aujourd'hui à l'Assemblée régionale, que le schéma régional d'aménagement du territoire et développement durable, le SRAT, qui, de par la loi, va devenir prescriptif, a pris totalement en compte les phénomènes de métropolisation. Ça me semble extrêmement important, parce que c'est mieux quand même de maîtriser des phénomènes de métropolisation que de les subir. Voilà. Donc je pense que sur ce plan-là, la région va forcément s'approprier ça. Alors après, sur l'aspect purement politique, moi je ne sais pas si c'est complètement figé, s'il y aura autant de listes. C'est possible, je n'en sais rien. Comme je dis, on est quand même dans des systèmes de prolongation de tendance et pas de changement vraiment fondamental de l'offre politique.
Y compris à l'extrême droite ? Parce que c'est une nouveauté, finalement, l'extrême droite.
Oui, mais l'offre politique existait déjà depuis longtemps, l'extrême droite.
Enfin, jamais en position de remporter la région, ou peut-être une fois avec Jean-Marie Le Pen il y a très longtemps, mais cette fois-ci... Il y a peut-être une chance de remporter la région, donc de se mettre au gouverne et donc d'avoir des idées sur la métropole ou pas.
Oui, bon, peut-être. Moi, je ne pense pas que l'extrême droite viendra dans la maison, la région, parce que le système, c'est un système avec un bonus, mais un faible bonus, qui est de 25% pour la région. Donc, il faut quand même avoir beaucoup de voix, beaucoup plus que pour des municipales, où le bonus est de 50%.
C'est-à-dire celui qui arrive en tête au premier tour à 25% de
oui,
des sièges.
Donc, c'est pas un gros bonus. Hein. Donc, il suffit pas d'arriver en tête au premier tour. Ça peut provoquer d'autres majorités aussi qui sont à partir de listes minoritaires. Donc, je ne le pense pas. Maintenant, sur le reste, je pense que Estrosi, effectivement, a des ambitions aussi nationales. Hein, c'est pour ça qu'il se présente. Bon, Christophe Castaner, moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui parce qu'il a été à l'origine de la création de PACA Investissement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais ceci dit, ça ne veut rien dire sur mon propre engagement politique. Hein.
Vous êtes très prudent, je vais quand même vous poser une autre question politique parce qu'elle est liée aussi au sujet métropolitain. Il y a une nouvelle donne politique dans les Bouches-du-Rhône. Il y avait un jeu comme ça, jeu de cartes avec une opposition entre le département qui était socialiste et la mairie et son agglo à l'UMP. Aujourd'hui, c'est le même camp qui dirige ce département, c'est l'UMP, l'agglo, la ville-centre. Est-ce que ça, c'est un facilitateur d'intégration Vous êtes très sceptique sur le...
Ah ben, je suis sceptique parce que quand la gauche avait les pouvoirs, il y avait concurrence entre Vigouroux et Végan. Donc c'est pas parce qu'on est forcément dans le même camp qu'on agit d'une manière coordonnée. Et même entre la région et le département, il n'y a pas eu quand même des coordinations qui soient parfaites. Donc, vous savez, à droite, le système est rigoureusement le même. Il y a un système clientéliste aussi, il y a un système de concurrence. Et donc, il est possible aussi que les mêmes effets provoquent les mêmes conséquences.
Martine Vassal va recevoir l'Union des maires des Bouches-du-Rhône. Vous pensez qu'elle va rentrer aussi, elle va être très à l'écoute de leur hostilité vis-à-vis de cette métropole? Il va y avoir une alliance à nouveau entre ces maires, la présidente du CG13, pour freiner?
Oh, c'est possible, oui. Mais enfin, je pense que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est avec les gens qui créent dans cette métropole, c'est avec les gens qui veulent faire des choses, les nouveaux. Il faut quand même voir qu'il y a beaucoup de nouveaux habitants qui viennent, et ils ne sont pas, eux, à endosser, disons, toute cette histoire qui n'est quand même pas forcément à l'honneur de notre territoire métropolitain.
Non, en même temps, si Viard était là, il vous dirait que les gens qui arrivent épousent en général les traditions qu'ils n'ont pas connues et votent de manière traditionnelle. Un slogan que j'ai entendu depuis très très longtemps, c'est Marseille, capitale méditerranéenne, euro-méditerranéenne. La métropole a plus de chances de concrétiser ça?
Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne crois pas. Je crois que c'est un côté un petit peu... Je ne crois pas qu'il faut rester sur l'aspect Marseille-Euro-Méditerranéenne. Il faut rester sur Marseille, partie prenante d'un dynamisme euro-méditerranéen avec les autres villes méditerranéennes.
Ce qui concrètement veut dire quoi? Parce que quand le citoyen lambda peut facilement l'identifier...
Il n'y aura pas de développement de Marseille concurrent avec Barcelone, Gênes, etc. Il y aura un développement conjoint. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation. 2 millions d'habitants, c'est aujourd'hui pas suffisant pour aller occuper une place mondiale comme ça. Surtout avec le retard qu'on a. Donc il faut être réaliste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se positionner autrement. Mais il n'y a pas grand-chose qui nous sépare des autres. Hein, on est dans une offre, après tout, les villes hanséatiques du Nord ont eu aussi cette espèce de charte il y a quelques siècles qui leur a permis de se développer. Nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire.
Michel?
Alors votre essai, hein, la métropole ex-Marseille-Provence, entre peur et raison, on entend bien les raisons pour lesquelles il faudrait avancer, mais la peur semble bien prédominer. c'est pas très mobilisateur là, pour les invisibles et les autres.
Non, mais je pense que ça montre tout le travail qu'on a à faire. Et peut-être qu'il ne faut pas compter uniquement sur l'action politique pour arriver à faire la métropole. Il faut que les habitants s'approprient cette métropole. Je trouve qu'il y a un très bon mot qui a été donné par Gérard Collomb à Lyon. Il a dit, pour que les habitants s'approprient la métropole, il faut d'abord que la métropole s'approprie ses habitants. Et je pense que c'est ça qui est la clé. Aujourd'hui, on est dans une métropole qui s'approprie déjà même pas ses territoires. Donc elle s'approprie difficilement ses habitants. Et ces invisibles-là sont des gens que la métropole ne s'est pas approprié. Donc c'est ça la clé. D'abord, si on est dans une communauté de destin, une communauté de projet, eh bien il faut que toutes les composantes aujourd'hui participent à ces projets et à ces destins.
Dernière question, on arrive au terme de l'émission. Un des acteurs dont on n'a pas beaucoup parlé et qui peut soit accélérer de manière miraculeuse les choses, soit totalement les stopper, ce sont les syndicats. Ça va être un facteur important. Un acteur important.
Vous voulez parler des syndicats de personnel intercommunaux?
Oui, tout à fait. Oui.
Bah, je crois qu'il faut il faut faire comme une négociation globale. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y arriver. D'abord, il y a une méthodologie à faire. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu ça au moment de la fusion des intercommunalités.
Qui s'est très mal passé d'ailleurs.
Voilà. Donc, on peut prendre cette expérience et puis regarder ce qu'il convient de faire, quoi, bien sûr.
On arrive au terme de cette émission. Michel, un mot peut-être sur, sur l'Auravie.
Très vite, l'Auravie mène toujours une bataille pour vivre, pour survivre, pour se développer, pour se réinventer. Ça, c'est dynamique, il y a des choses qui se passent très positives, mais on a toujours très 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 fortement besoin de vous, en particulier par rapport à une nouvelle échéance qui est celle du 10 novembre, qui correspond à la sortie de notre période d'observation de notre redressement judiciaire et avec la possibilité de consolider cet assaut et de consolider ce projet de presse pas pareil avec des lecteurs et des auditeurs pas pareil, on l'espère, et ça passe par l'abonnement, on le répète tout le temps.
Abonnez-vous, achetez l'Auravi dans les kiosques, abonnez-vous également sur le site internet www.leuravi.org. Merci, on se retrouve le mois prochain, mais le mois d'après. Bye.